Bonjour, je m'appelle Léo et je fais partie du groupe des capybaras du collège Jeanne d'Arc. Nous avons choisi ce nom parce qu'à la base, avec notre groupe, nous n'avions pas d'idée de nom. Et comme moi, j'adore cet animal, j'ai donc imposé à mon groupe ce nom.
Bonjour, je m'appelle Clément, je fais partie du groupe des capybaras du collège Jeanne d'Arc, même si cet animal ne me correspond pas du tout, parce que je suis plutôt casse-cou, j'adore le vélo de descente. Il nous arrive des fois des choses étonnantes. Par exemple, j'étais avec mon club de vélo de Chamonix et on a pris une piste qui traversait un champ de vaches. Mon copain qui faisait le malin a énervé une vache qui l'a chargée et s'est retrouvée sous la vache.
Bonjour, je m'appelle Isaac et je fais partie du groupe des capybaras du collège Jeanne d'Arc. Je suis née avec une maladie, le pied bot, et le médecin m'a dit que je ne pourrais jamais faire de sport. Résultat, aujourd'hui j'ai fait 4 ans de patin et 3 ans de skate. Comme quoi, quand on veut, on peut.
Bonjour, je m'appelle Félix et comme les autres, je fais partie du groupe des capybaras au collège Jeanne d'Arc. Il y a 3 ans, je suis venu en France et je ne savais pas parler français avant ça. J'habitais en Afrique du Sud pendant 9 ans.
Pendant notre émission, nous n'allons pas vous raconter la vie des capybaras. C'est pas le sujet. Dans cette émission, vous allez entendre parler de vélo, de photos, de sport extrême. Mais aussi de notre grande thématique, individu et société, confrontation de valeurs. Et à l'intérieur de cette thématique, moi j'ai interviewé Inspire, une association qui lutte contre la pollution de l'air dans la vallée de Chamonix.
Moi, j'ai interviewé une personne que vous avez déjà entendue sur Globule Radio, c'est Florent Salvetti, un agriculteur de Servoz qui élève des moutons.
Moi, j'ai fait une chronique sur la FBA.
Moi, j'ai fait une chronique sur Nelson Mandela.
Allez, c'est parti, voilà l'interview de Clément.
Quels animaux élevez-vous ?
Alors, j'élève des moutons sur la commune de Servoz.
Comment les protégez-vous des loups ?
Alors, on met les brebis dans des parcs, des clôtures électriques. Et on a des chiens de protection.
Où êtes-vous situé dans la vallée ?
J'ai l'exploitation sur la commune de Servoz.
Avez-vous eu déjà affaire à un loup ?
J'ai pas eu affaire à un loup, mais j'ai eu tous les ans, tous les étés, j'ai eu une ou deux attaques.
Où se déroulent à peu près vos attaques la plupart du temps ?
En alpage. Toutes les attaques, ça se déroule la plupart en alpage.
Que faites-vous après une attaque du loup ?
Alors on essaie de retrouver les bêtes, on les compte, et quand on retrouve les bêtes mortes, ou accidentés, on appelle un organisme, ça s'appelle l'OFB, et ils viennent contrôler, voir si c'est bien un loup qui a attaqué.
Les loups ont-ils un impact sur votre métier ?
Ah oui, un gros impact financier, ça nous coûte cher, il faut acheter les chiens, les croquettes, les clôtures, il faut y être jour et nuit, et en plus il y a un peu de casse, donc oui, c'est un gros impact pour nous.
Combien d'animaux meurent à cause des loups par an ?
Pour ma part, moi, tous les ans, on perd au moins 5 ou 6 bêtes.
Savez-vous combien à peu près a de loups dans la vallée ?
Moi, je sais pas du tout, mais il y en a un peu dans tous les là-bas.
Êtes-vous contre la défense des loups ou avec ?
Bah, moi, je suis un peu contre le loup parce que ça a un gros impact par rapport à mon métier. Moi, je suis concerné, alors donc, ouais, moi, je suis contre les loups.
Combien avez-vous d'animaux ?
Donc, j'ai un troupeau de 100 brebis. Avec les petits, avec les agneaux, ça fait 200 bêtes. Et on a 6 chiens de protection.
Quelle race de chiens avez-vous ?
Alors, la race des chiens, j'ai des bergers d'Anatolie et des matins espagnols.
Avez-vous des soucis à cause de vos chiens avec les randonneurs ?
J'ai pas trop de soucis avec les randonneurs, j'ai plus de soucis avec les chiens des randonneurs.
Avez-vous un conseil à donner aux randonneurs quand ils passent à côté de vos moutons avec les chiens ?
Bah ouais, faut que les personnes essayent d'aller doucement, contourner le troupeau, éviter les chiens, descendre du vélo s'ils sont sur un vélo, et pas courir.
Merci à Florent Salvetti de m'avoir permis de vous interviewer.
Merci pour cette formidable interview. Et maintenant, ma philosophie de Amel Bent.
Qu'une philosophie, être accepté comme je suis, malgré tout ce qu'on me dit. Je reste le point levé, pour le meilleur comme le pire. Je suis métisse mais pas martyr, j'avance le cœur léger. Mais toujours le point levé, fais la tête, bombez le torse, sans cesse redoubler d'efforts. Finalement laisse pas le choix, je suis là qui bat le roi. Malgré nos peines, nos différences, toutes ces injures incessantes, moi je lèverai le
n'est pas comme toutes ces filles qui ont des visages, qui ont des habits. Moi j'ai des formes et des rondeurs. Ça sert à réchauffer le cœur. Fille d'un quartier populaire qui a appris à être fière. Bien plus d'amour que de misère. Bien plus de cœur que de pierre. Je n'ai qu'une philosophie. Être accepté comme je suis, avec la force et le sourire. Point levé vers l'avenir. Lever la tête, lever le temps. Sans cesse redoubler d'efforts. La vie ne m'en laisse pas le choix. Je suis là.
Ensuite, la chronique de Isaac.
Bonjour, moi c'est Isaac. J'ai voulu vous faire une chronique sur la photographie, car c'est un sujet qui me tient beaucoup à cœur et c'est comme un art. La photographie, l'art de capturer la lumière pour créer des images, est une innovation qui a révolutionné notre façon de voir et de documenter le monde. Son histoire commence au début du 19e siècle avec l'invention de la première technique photographique, le daguerréotype, par Louis Daguerre en 1839. Cette technique utilisait une plaque d'argent iodée exposée à la lumière pour produire une image unique et détaillée. Parallèlement, William Henry Fox Talbot développait le catholipe, un procédé utilisant des papiers enduits, des sels d'argent permettant de créer à partir d'un négatif. Cette innovation a jeté des bases de la photographie moderne, où les images pouvaient être reproduites en plusieurs exemplaires. Au cours du 19e siècle, la photographie a rapidement évolué avec l'introduction de nouvelles techniques et matériaux. La découverte des plaques de verre au collodion humide, puis au gélatino bromure d'argent a amélioré la qualité de la probabilité des appareils photo. En 1888, George Eastman a lancé Kodak, un appareil photo portable avec un film en rouleau, rendant la photographie accessible au grand public. Le XXe siècle a eu l'essor de la photographie en couleur grâce aux travaux des frères Lumière en leur procédé autochrome. La photographie est devenue un moyen d'expression artistique à part entière avec des photographes comme Ansel Adams, Henri Cartier-Bresson et Dorothy Lange qui ont utilisé l'appareil photo pour capturer des moments historiques, des paysages majestueux et des scènes de la vie quotidienne. La photographie n'est pas un art mais aussi un outil scientifique et documentaire. Elle a joué un rôle crucial dans des domaines tels que la médecine, avec l'imagerie médicale, et l'astronomie en capturant des images de l'espace lointaine. Les photojournalistes ont utilisé la photographie pour documenter des événements historiques et sociaux du monde. L'ère numérique, commencée à la fin du XXe siècle, ont transformé la photographie. Les appareils photo numériques dotés de capteurs électroniques ont remplacé les films traditionnels, offrant une plus grande flexibilité et facilité d'utilisation. les logiciels de retouche photo, comme Photoshop, ont ouvert de nouvelles possibilités créatives permettant de modifier et d'améliorer les images de manière complexe. Aujourd'hui, la photographie est omniprésente grâce aux smartphones équipés de caméras de haute qualité. Les réseaux sociaux comme Instagram ont popularisé la photographie, permettant des milliers de personnes de partager leur image.
Waouh, merci pour cette formidable chronique. Et maintenant, nous allons écouter le titre « Pray in the Moonlight » de Yege Marley. They say this and I say for all, but I in some people world, you never shine at all. These roads of flames are catching a fire.
That you sing my song, my song. I've been on this road for way too long. I've been hoping that we all get along. These roads of flames are catching a fire. Ah, showed you I loved you, you called me a liar. Give God the thanks and praises. I've been on my own, on, on. But we ain't never left alone, alone, alone. And if I'm telling you the feeling is wrong, relax a little, friend, this won't take too long. And when you're feeling alone, you can call my phone. Is there a better way to go? Teach them something before they lose the song.
Ok, Nous allons écouter tout de suite mon interview avec Anne Lassmann-Trappier.
De votre association et contre quoi luttez-vous ?
Alors l'association Inspire se bat pour la qualité de l'air et pour la préservation de la qualité du climat aussi. Donc on lutte contre les émissions polluantes et les émissions de gaz à effet de serre, notamment liées au transport routier, puisqu'ici on est sur l'axe international du tunnel du Mont-Blanc.
Quand a été créé Inspire et pourquoi ?
L'association a été créée en 1996 parce qu'à l'époque, il y avait un projet d'échangeur routier complètement démentiel, démesuré, sur la route blanche aux Ouches, entre Tacona et les Ouches. Et donc, les habitants du secteur se sont mobilisés et se sont révoltés contre ce projet qui était, on aurait dit, un projet d'une grande ville, quoi. Et ils sont allés voir le maire, ils ont gagné. Le maire a remis en cause le projet et aujourd'hui, la route à cet endroit-là, elle passe en dessous. Donc le village, entre le village des Ouches, a retrouvé un petit peu de sérénité.
Qui est le fondateur ou la fondatrice d'Inspire ?
Alors, au départ, c'était donc des riverains de la Route Blanche. C'était ma maman, Marie-Jo Trappier. Et puis, de l'autre côté de la route, il y avait Bertrand Cachat. Et tous les deux ont monté cette association. Et Bertrand Cachat était le premier président, suivi de Marie-Jo Trappier ensuite.
Combien êtes-vous dans l'association ?
Alors, ça dépend ce qu'on regarde. Aujourd'hui, on a à peu près 4000 personnes qui reçoivent notre newsletter. On a à peu près un peu plus de 300 personnes qui adhèrent, c'est-à-dire qui payent une cotisation chaque année pour être membre d'Inspire. On a une dizaine de bénévoles et puis on a même une salariée en CDI.
Est-ce que tout le monde peut devenir membre de l'association ?
Absolument, c'est une association citoyenne, donc c'est ouvert à tout le monde et au contraire, on est très accueillant, on aime bien avoir des adhérents, des sympathisants, des gens qui veulent devenir bénévoles, des gens qui veulent aider.
Quelles sont les principales actions que vous avez réalisées depuis la création d'Inspire ?
Il y en a eu beaucoup, donc globalement, on fait de la sensibilisation, de l'information auprès des citoyens et des décideurs, donc des élus politiques, mais aussi tout un travail de proposition, par exemple pour la mobilité en particulier, puisque c'est un domaine qui nous intéresse beaucoup. Donc la sensibilisation, c'est la newsletter avec plein d'informations. C'est aussi un gros projet qu'on a fait, c'est le web documentaire qui s'appelle Atmosphère sur la qualité de l'air et sur comment agir chacun au quotidien pour améliorer la situation. Et puis, c'est des propositions auprès des élus. Donc, par exemple, on a fait un fascicule qui s'appelle « Le vélo, c'est du propre » pour inciter les élus à mettre en place des aménagements cyclables.
Pour vous, quelle est votre plus grande victoire ?
Alors, je dirais que la mienne, ces 10 dernières années, c'est d'avoir obtenu pas mal d'aménagements cyclables dans la vallée de Chamonix suite aux vélorutions qu'on a faites. On a commencé à faire des vélorutions, des manifestations à vélo en 2014. Et très vite, les élus se sont rendus compte qu'il y avait vraiment une demande. On avait des centaines de personnes qui venaient à chaque fois. Et ils ont mis en place tout un programme. Et aujourd'hui, ça continue. On a sans arrêt de nouvelles pistes cyclables. Et je dirais que pour l'historique de l'association, il y a aussi ce tout premier combat qui a été gagné contre cet échangeur routier, qui est une belle victoire, parce qu'autrement, on aurait vraiment défiguré l'entrée le secteur entre Chamonix et les Ouches.
Quels sont les effets les plus préoccupants de la pollution de l'air dans notre vallée ?
Alors la pollution de l'air, même si elle se voit pas beaucoup, elle tue en fait. C'est bien triste à dire, mais dans la vallée de l'Arve, à peu près 9% de la mortalité totale, hein, tous les décès annuels, sont dus à la pollution aux particules. Et environ 4% de la mortalité totale encore est liée au dioxyde d'azote, qui est un polluant très lié au diesel.
Réalisez-vous des études sur la pollution de l'air ? Si oui, lesquelles et comment ?
Alors non, les études sur la qualité de l'air, c'est des études très coûteuses. On n'a pas les capacités de faire ce genre d'études. Par contre, par exemple, on a réalisé l'éco-guide de l'automobile avec des scientifiques pour dire aux gens, quand on a vraiment besoin d'avoir une voiture, quelle est la moins mauvaise solution en fonction de son usage, par exemple.
Comment Inspire sensibilise les jeunes parents, voire les personnes âgées ?
On essaye de sensibiliser l'ensemble de la population, mais comme on parle de questions de santé beaucoup, hein, la qualité de l'air c'est beaucoup la santé, ces publics-là sont assez touchés parce que les premières victimes de la pollution de l'air, ce sont les enfants, parce qu'ils sont tellement sensibles, surtout jusqu'à l'âge de 7-8 ans, la pollution de l'air peut carrément altérer les fonctions pulmonaires de l'enfant et après c'est des problèmes à vie, de santé à vie pour ces enfants. Donc les parents sont, on va dire, relativement ouverts à ces questions et assez faciles à sensibiliser. Ils sont plutôt même preneurs, demandeurs d'informations. Quand on a des pics de pollution, moi j'ai des coups de téléphone de gens qui me disent « mais qu'est-ce que je fais ?» Et les personnes de plus de 65 ans sont aussi vulnérables par rapport à la pollution de l'air, plus que le reste de la population. Donc j'espère qu'elles sont sensibilisées et on a quand même pas mal d'adhérents qui sont de cet âge-là, donc je pense qu'on les touche.
Quels sont vos projets à l'avenir ?
Alors pour cette année 2024, on a quelques projets. On a un très grand projet, mais on est en discussion avec l'ATMB, hein, les autoroutes, de faire une journée sans voiture sur la route blanche dans la vallée de Chamonix. Qu'on aimerait vraiment faire ça à l'automne et ce serait un moment très convivial où chacun peut venir sur la route blanche à vélo, en famille, avec des petits-enfants, en roller, en tout ce qu'on veut, trottinette. Et puis avec des animations, de la convivialité, quelque chose de sympathique. Donc on n'a pas encore la réponse définitive, mais on est déjà en pourparlers avec la TMB. Sinon, bah pour continuer dans nos éco-guides, dans nos guides, on a encore des projets là-dessus. On a le projet de faire une boîte à outils pour donner à chacun des applications ou des solutions pour agir sur chaque niveau de sa vie. Par exemple, l'habillement. Comment faire pour que je m'habille et que c'est moins d'impact sur la planète, comme pour le chauffage ou ça peut être des choses aussi pour le numérique, par exemple, parce qu'on ne sait peut-être pas tous que le numérique a un impact important sur la qualité de l'air, sur le climat, sur l'environnement.
Merci beaucoup à Anne Lassmann-Trappier pour cette formidable interview que j'ai aimé réaliser. Vous êtes toujours sur Globule Radio 90.5 FM avec le Collège Jeanne d'Arc. Maintenant, nous allons tout de suite écouter le titre Heurt de Lil Dicky.
What up world? It's your boy, just one of the guys down here. Well, I could be more specific. I'm a human. And I just wanted to, you know, for the sake of all of us earthlings out there, just wanted to say.
We love the earth. It is our planet. We love the earth. It is our home. We love the earth. It is our planet. We love the earth. It is our home.
Hi, I'm a baboon. Just less advanced than my is huge.
Hey, I'm a zebra. No one knows what I do, but I look pretty cool in my white or black.
I'm a lion cub, and I'm always getting licked.
How's it going? I'm a cow. You drink milk from a moo. I'm a fat pig.
I'm a common fungus.
I'm a disgruntled skunk. Shoot you out my butt.
I'm a plant, I can get you up.
And I'm Kanye West.
We love the earth. It is our planet. We love the earth. It is our home. We love the earth. It is our planet. We love the earth. It is our home. We love the earth.
Ba-dum, ba-dum, boom, ba-dum, ba-dee. We are the vultures, feed on the dead.
Just some rhinos as heck.
I'm just a giraffe, what's with this leg?
Yeah. Hippity hop, I'm a kangaroo. How about that? Up and down with you.
I'm an elephant, I got junk in my trunk.
Come on, clown.
I'm a squirrel looking for my next nut.
And I'm a pony, just a freak horse.
Yeah, but,
come on, get on.
Yeah,
giddy up, let's ride.
I'm HPV.
Sleep all the time, so what? It's cute.
We love you, India.
We love you, Africa.
We love the Chinese.
We forgive you, Germany.
Earth, it is our planet.
It's our planet.
We love the earth.
We love the earth.
so late on and still don't know. I hope it's not a simulation. Give each other names like Ahmed and Pedro. And yeah, we like to wear clothes. Girls still look beautiful. And it covers up our human. Eat a lot of tuna fish. But these days it's like we don't know how to act. All these shootings, pollution. We under attack on ourselves. Like, let's all just chill. Respect what we built. Like, look at the internet. It's cracking this. Fellas, don't you let it. And our women are better than a. So what we gotta land for? What we gotta stand for?
Love.
And we love D.O.
Avec cette bonne vibe, nous allons entendre la chronique de Félix.
Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler d'une association que vous avez peut-être déjà entendu parler. Il s'appelle la FAB, qui signifie Fonds d'Herbois. Cette association lutte contre la pollution en remplaçant les anciens chauffages de bois dans la vallée de l'Auf, pour essayer d'avoir une meilleure qualité de l'air. Le Fonds d'Herbois, ENR, c'est une aide financière de 2 000 €, cumulable avec d'autres aides gouvernementales destinées aux habitants des 41 communes de la vallée de l'Auf pour le changement de leur ancien appareil de chauffage au bois qui doit être antérieur à 2005 ou de leur cheminée ouverte. Alors que les chauffages au bois représentent une source importante d'émissions de particules fines, l'État, la DEME, la région Auvergne-Rhône-Alpes, le département de la Haute-Savoie et les collectivités locales ont mis en place en 2013, l'aide financière du Fonds d'Herbois, pour que les citoyens puissent équiper leur habitation principale d'un nouveau système de chauffage au bois ou fonctionnant avec une énergie renouvelable thermique ayant une fonction de chauffage. Pour que la FAB puisse venir chez vous pour remplacer votre appareil de chauffage, pour bénéficier de l'aide de Fonds d'Herbois, les particules doivent remplacer un appareil non performant de chauffage au bois comme une cheminée ouverte, peu importe l'année de sa construction. Un foyer fermé, un poêle, une cuisinière, une chaudière installée avant 2002. Par du matériel très performant en termes de rendement et de limitation des émissions des particules fines. Maintenant, vous demandez probablement quelles sont les communes éligibles pour cela. Le Fonds d'Herbois est disponible dans les 41 communes de la vallée, entre La Roche-sur-Foron et Chamonix. Vous vous demandez probablement pourquoi veut-on changer notre appareil de chauffage de bois. La FAB dit que c'est plus confort car c'est une énergie renouvelable, plus sûre et une chaleur diffusée. Ils disent aussi que c'est plus économique car on fait une baisse de consommation de bois et bien sûr c'est plus écologique avec une diminution de particules fines dans la vallée. Fondé par Pierre Martin, Fonds d'Herbois est spécialisé dans la création des meubles en bois massif. Le Fonds d'Herbois a été lancé en 2013 et a déjà permis de renouveler plus de 1300 appareils sur le territoire, ce qui représente 6,5% de l'ensemble de l'État. La région Auvergne-Rhône-Alpes, le conseil général de la Haute-Savoie et 5 communautés des communes de la vallée de l'Arve. Vous vous demandez probablement si la FAB produit d'autres choses que juste des appareils de chauffage. La réponse est oui. La FAB produit aussi des tables, chaises et armoires. En conclusion, c'est une entreprise qui lutte contre la pollution en essayant d'améliorer la qualité de l'air. Si cela vous intéresse plus, vous pouvez jeter un coup d'œil sur leur site officiel. Merci beaucoup d'avoir écouté mon reportage et au revoir.
Merci beaucoup pour cette chronique, pour cette formidable chronique. Et maintenant, voix sur ton chemin de Bennett.
Sous-titrage Société Radio-Canada.
Ok, ok. Et maintenant, nous allons écouter ma chronique personnelle sur les sports extrêmes. Zéro, c'est le nombre de canettes produites par Red Bull en 2022. Pour autant, Red Bull vend cette même année 12 milliards 138 millions de canettes. Mais que produisent-ils à la place ? Je vais vous parler de Red Bull et plus particulièrement de l'ascension d'une marque inconnue à une marque omniprésente dans les sports extrêmes. Cette marque a été créée par l'homme d'affaires autrichien Dietrich Mateschitz et l'homme d'affaires thaïlandais Chao Linvida. Celle-ci est passée d'une simple marque de vente de canettes à créatrice d'événements sportifs et sponsor de sports extrêmes.
Comment est né le Red Bull ?
Tout commence dans les années 80 où le businessman autrichien Dietrich Mateschitz se rend en Thaïlande. Là-bas, il découvre une boisson populaire, le Krating Deng, qui veut dire taureau rouge, qui est le nom d'un gros bœuf vivant au sud de l'Asie. Le Krating Deng est la solution pour rester éveillé. Elle est très consommée par les taxis et les chauffeurs de poids lourds thaïlandais. Cette fameuse boisson contient de la taurine, de la caféine et beaucoup de sucre. Ça leur donnait un gros coup de boost. Notre autrichien va se voir proposer cette boisson afin de lutter contre la fatigue. Il adore l'idée, donc il va s'associer à Chao Yodvida, le créateur du Krating Deng. Ensemble, ils adapteront la recette aux goûts occidentaux et lanceront en 1987 Red Bull Energy Drink, ou Red Bull, qui sera produite en Autriche.
Et comment est né le Red Bull ? Non, comment Red Bull est devenu connu ?
Red Bull, en 1987, se lance en Autriche et ne cherche plus à conquérir les ouvriers, mais les jeunes. Les deux hommes d'affaires veulent développer l'entreprise et profitent de rassemblements étudiants ou sportifs pour distribuer gratuitement la boisson. Il y a aussi les levées de l'interdiction du gouvernement allemand, hongrois et britannique qui a donné un gros coup de pub pour se développer à l'international entre 1992 et 1994. La boisson arrivera en 1997 aux États-Unis et reste encore aujourd'hui les plus gros consommateurs de la boisson avec le Mexique et le Chili. La France sera un des derniers pays à enlever l'interdiction de commercialiser le Red Bull dans les supermarchés, en 2008.
Et qui produit les canettes ?
Red Bull fait un gros coup en séparant production et marketing. C'est l'entreprise Rauch, fabricant de jus autrichien, qui s'occupe de la fabrication des canettes avec un coût de production de 20 à 35 centimes. Et Red Bull s'occupe plus que du marketing. Elle veut attirer l'attention sur la marque et les produits en lui consacrant en 2012 30 à 40% de son chiffre d'affaires, soit 1,4 milliard d'euros.
Comment Red Bull est passé de la canette au sport extrême ?
En 1998, Red Bull lance les Dolomiten Man, une course multisport par équipe et en relais. Les participants doivent courir, faire du parapente, faire du VTT et faire du kayak. Grâce à ça, l'ADN Red Bull est né. Red Bull achète les équipes de sport et crée ses événements. En 1989, Red Bull sponsorise le pilote de F1, Gérard Berger. Red Bull lance en 1992 une compétition de caisse à savon volante. Red Bull veut renouer avec la France et en 1997, en lançant une compétition de plongeon de haute voltige à La Rochelle. Dans les années 2000, Red Bull fait des compétitions de courses de patins à glace, de moto freestyle, de vélo de descente, de surf, de ski, de snowboard freestyle. Le 15 novembre 2004, Red Bull rachète l'écurie de F1 Jaguar Racing et achètera par la suite 5 clubs de foot et 2 de hockey. Red Bull fait de nombreux exploits grâce à ses sportifs comme Félix Baumgartner, qui bat le record du monde du plus haut saut en parachute, 39 km, et aussi il a fait la traversée de la Manche à plus de 200 km/h et 9000 mètres d'altitude. Red Bull sponsorise plus de 800 athlètes comme Max Verstappen, Tess Le Deux, David Gottschalk et Fabio Wibmer. L'entreprise transforme les coûts en centres de profit grâce au sponsoring.
Quelles sont les valeurs de Red Bull ?
L'entreprise met en avant dans ses publicités l'énergie, la force, la speed, le fun, la créativité et l'audace que la boisson procure. En conclusion, ce sujet m'a énormément inspiré car je trouve que l'histoire de cet Autrichien qui part en Thaïlande n'est pas banale. En quelques années, il arrive à changer la vision des sports extrêmes et laisser son empreinte. C'est une ascension fulgurante, une belle leçon de business que j'ai aimé vous raconter.
Merci Léo pour cette chronique très intéressante. Je crois qu'après toutes les fautes que je viens de faire, je dois m'acheter du Red Bull. Mais maintenant, on doit écouter Locked Out of Heaven et puis Dernière Danse.
Yeah.
suite la chronique personnelle de Félix.
Imagine, tu fais une descente avec tout ce que tu aimes. Tous les rails, tous les sauts et chaque village constitué de 2 mètres de puff. C'est exactement ce qu'a fait Marcus Eder sur son run appelé The Ultimate Run. Mais avant ça, je vous parle de... Mais avant que je vous parle de ça, il faudra commencer depuis, depuis la base.
Mais qu'est-ce que ça veut dire le freeride?
Oui, c'est exact. En gros, le ski freeride, c'est un sport hyper dangereux qui comporte de donner le skieur beaucoup d'adrénaline, du ski hors le piste ou à la place du snowpark, c'est les roches et les falaises.
Oui, merci, on savait tous déjà ce que ça voulait dire. Mais The Ultimate Run de Mark Eder.
Marcus Eder est pour moi le meilleur freeride free skier. The Ultimate Run commence sur l'eau d'une montagne à Zermatt, en Suisse. Il descend le début dans montagne avec quelques beaux virages dans la puff. Puis il a commencé à sauter les gros falaises de glace qui vont à peu près 20 mètres d'hauteur. En sautant ces falaises, il fait des vraiment beaux figures, comme par exemple des 3-6 switch et atterrit nettement dans la neige. Faut pas oublier qu'il a aussi skié sur des glaciers et puis il a sauté dans la zone de puff.
Waouh, trop stylé, mais est-ce qu'il est tombé au bout d'un moment?
Attendez, ça arrive. Après des vingtaines de beaux sauts, Marcus arrive sur une saute gigantesque qui fait une quarantaine de mètres haut, le double de ce qu'il vient de faire. Il prend le saut avec une telle vitesse qu'il s'envole une centaine de mètres. Mais à l'atterrissage, il tombe. Grâce à la puff, il n'avait pas trop mal et il s'est vite révélé pour continuer. Il continue son trajet et finit par entrer dans le ventre d'un glacier où il slide sur ses côtés pendant un certain temps. Il ressort enfin sur son zone natale de Klausberg. Il rencontre ses amis et ils font un tour au snowpark. Puis il est reparti sur backcountry. Il arrive ensuite en ville où il skie dans la rue et prend tous les rails qu'il voit puis fait un front flip sur une voiture.
Très stylé, c'est sûr que là c'est une rêve plutôt improbable.
Attendez, c'est pas encore la fin. La voiture l'amène au château de Toffer qui est recouvert sur de la neige. Il va là-dedans et fait un petit tour. Ensuite, il skie et arrive sur un terrain plat et regarde le coucher du soleil. En tout, ça durait à peu près 10 minutes. Personnellement, je trouve que ça c'est la meilleure descente en freeride au monde. Je trouve que c'est tellement stylé dont il a fait tout ça en 10 minutes. J'espère qu'un jour que j'arriverai à faire ça. Si vous voulez regarder toute la descente, regardez sur YouTube. Ultimate Run.
Merci à Félix pour cette incroyable chronique et maintenant je picole de Sasso.
Y'a pas de vrai poteau dans la vie, c'est chacun sa merde, chacun ses ennuis. Il se fait tard, chacun rentre chez lui. Moi je vais pas rentrer, tu connais, je suis rallye. Faut que le rap s'achalasse, déchiré sous camage, pilote n'importe comment. Dans un bolide allemand, y'a ma fumasse devant. Moi, sport, je suis à devin. J'écris des textes, moi, je suis pas devin. On peut mourir tout à l'heure, mais on se dit à demain.
Même si on se bat plus, appelle si t'as besoin.
Tu sais pas que j'ai galéré avec mes deux mains. Je prenais des 100 grammes et je coupais des gros vins. J'ai fait du bénéfice, j'allais pas dans le sud. J'ai tout claqué dans le studio. Pas de chauffage dans la Clio. Rabat sous Absolute Mango. J'ai 69 appels manqués. Tous le cause demande à moi stup. Aïliès, Kenzo et Navo. Eux et nous c'est pas le même niveau. Y'a Jalil derrière les barreaux. L'allemand vient on style la sup. Une semaine à Porto Rico. Et rien que j'picole, rien que j'picole. J'ai de la pression dans le biberon. Faut que j'm'isole, faut que j'm'isole. Faut que j'accomplisse ma mission. Et rien que j'picole, rien que j'picole. J'ai de la pression dans le biberon. Faut que j'm'isole, faut que j'm'isole. Faut que j'accomplisse ma mission.
Faut que j'accomplisse.
Faut que j'accomplisse ma mission. J'ai de la potion dans le biberon. Faut que j'accomplisse ma mission.
J'picole, j'vais pas bien dans ma vie. Souriant, mais j'suis rempli de soucis. J'touche pas la SACEM, j'fais encore des sous-sales. Quand t'as là à l'école, j'détaillais dans le sous-sol. Dans la ZIC, moi j'espère réussir. On aime trop la vitesse, on a pas peur de mourir. Dans nos têtes, on fait tout à l'envers. On savait pas marcher, qu'on voulait déjà courir. Non, ma belle, j'pourrais pas tout acheter. J'ai des priorités, trop de bouches à nourrir. Moi, la tête, j't'avoue, j'l'ai trop zoné. Mais j'ai tout fait dedans, j'me vois même y mourir.
J'aurais aimé toute ma vie, elle m'a trahi, c'est ça la vie. J'suis sous
picole, rien que je picole. J'ai de la potion dans le biberon. Faut que je m'isole, faut que je m'isole. Faut que j'accomplisse ma mission. Et rien que je picole, rien que je picole. J'ai de la potion dans le biberon. Faut que je m'isole, faut que je m'isole. Faut que j'accomplisse ma mission. Mission. Faut que j'accomplisse ma mission. J'ai de la potion dans le biberon. Faut que j'accomplisse ma mission.
Ho 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 les matelots, nous allons tout de suite écouter la chronique personnelle de Clément.
Le prix moyen de tout un équipement de vélo de descente est de 4 500 euros. Aujourd'hui, je vais vous parler des équipements nécessaires à la pratique du vélo de descente. Pour le vélo de descente, il est idéal d'avoir un grand débattement sur les fourches à amortisseurs. Le débattement est la distance amortissable par la fourche. Cette longueur va de 80 mm pour des vélos très roulants à plus de 200 mm pour des VTT de descente. Avec ça, il faut aussi des freins très puissants pour la descente. C'est idéal d'avoir des freins à 4 pistons, car c'est les plus puissants pour les vélos roulants. Il est bien d'avoir des freins à 2 pistons, car ce n'est ni trop puissant, mais aussi à la fois assez pour le roulant. Pour la pratique du vélo de descente, il est conseillé d'avoir des freins hydrauliques. Les freins hydrauliques fonctionnent avec du liquide, puis quand on appuie sur les freins, le liquide se comprime et pousse les pistons sur les plaquettes, puis les plaquettes appuient sur le disque. Les freins tout seuls ne servent à rien. Il faut aussi des disques. Il y a plusieurs types de disques. Par exemple, pour la descente, sur les chemins très bien engagés, il est préférable d'avoir des disques de taille de 200 mm ou 203 mm, qui correspond au diamètre de disque. Après, il y a aussi différentes matières de plaquettes de freins. Il y en a soit en acier, soit en aluminium. La meilleure matière des deux, utilisée pour la pratique du VTT de descente, est l'acier, car c'est cette matière qui s'use le moins rapidement.
Quelles sont les protections pour les pilotes qui pratiquent le vélo de descente ?
Pour le pilote, il est conseillé d'avoir des protections pendant la pratique du vélo de descente. Par contre, en compétition, il est obligatoire d'avoir certaines protections, comme le casque intégral avec un masque, un gilet de protection sur le thorax et une protection dorsale intégrée. Les coudières, les genouillères, habits longs, gants longs et chaussures fermées. On peut aussi avoir des protections supplémentaires, comme un collier de protection cervicale, protège tibia, protège cheville, un cuissard, protège poignet, short de protection. On peut avoir des protections souples ou dures sur les parties flexibles du corps. Il est préférable d'avoir des protections souples au cou des genoux. Sur les autres parties du corps, à protéger, on peut mettre des protections dures.
Comment faut-il faire l'entretien de son vélo ?
L'entretien du matériel est primordial, voire vital même pour le vélo. Pour les vélos, il est bien de réviser son vélo tous les mois ou tous les 1000 km. Parce qu'à chaque fois que l'on roule avec, l'usure va se former ou des réglages vont se défaire. Comme la pression de l'air de la fourche, de l'amortisseur, s'il y en a un. Les pressions de pneus, le liquide dans les freins ne va plus être bon car il n'est pas éternel. Toutes ces petites choses sont quand même très importantes. Car si tu roules et que tu n'as pas révisé les pressions et que tu n'as pas le matériel nécessaire sur toi, cela peut te faire tomber. Donc ça peut être dangereux. Donc toujours tout vérifier avant de partir rouler. Il faut souvent faire réviser son vélo car c'est primordial pour ne pas qu'il cède. Pour conclure, selon moi, les équipements à la pratique du vélo de descente sont nécessaires. Ils peuvent sauver la vie du pilote en cas d'accident, même en cas de petite chute sur un obstacle. Il est indispensable de se protéger car on ne peut pas prévoir ce qui pourra vous arriver sur la piste.
Merci beaucoup Clément, et tout de suite, Get Lucky de Daft Punk et puis Talk Dirty de Jason Derulo.
Thank you. The legend of the phoenix. All ends with beginnings. What keeps the planet spinning? The force from the beginning.
To get some, she's up all night for good fun. I'm up all night to get lucky. We're up all night to the sun. We're up all night to get some. We're up all night for good fun. We're up all night to get lucky. 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 She's up all night to the sun. I'm up all night to get some. She's up all night.
Get jazzy on.
I'm that flight that you get on, international, first class seat on my lap, girl, riding comfortable, 'cause I know what that girl them need, New York to Haiti. Got lipstick stamps on my passport. You make it hard to leave. Been around the world, don't speak the language. But your booty don't need explaining. All I really need to understand is when you
talk dirty to me. Jazzy on them.
You know the words in my songs. No habla English. Our conversations ain't long, but you know what is. I know what that girl them want. London to Taiwan. I got lipstick stamps on my passport. I think I need a new one. Been around the world, don't speak the language. But your booty don't need explaining. All I really need to understand is when you
talk dirty to me.
Suck my penis. Gilbert Arenas, guns on deck. Chest to chest, tongue on neck. International oral sex. Every picture I take, I pose a threat. Fold a jet, what you expect? Her pussy so good, I bought her a pet. Anyway, every day I'm trying to get to it. Gotta say to my phone on the big booty. Anyway, every day I'm trying to get to it.
saved them a phone on the big
been around the world, don't speak the language, but your booty don't need explaining. All I really need to understand is when you
talk dirty to me.
Nice. Et maintenant, la chronique personnelle de Isaac.
Nelson Mandela. Né le 18 juillet 1918 dans le village de Mbezo en Afrique du Sud. Et une figure emblématique de la lutte contre l'apartheid et un symbole mondial de la paix et de la réconciliation. Issu de la clan Thembu de l'antique Xhosa, il est envoyé à une école méthodiste de Ildom, puis à l'université de Fort Hare, où il commence à développer son engagement politique. En 1944, Mandela rejoint le Congrès national africain, ANC, et confondre la Ligue des jeunes de l'ANC, prônant des actions désobéissantes civiles contre la loi des injustices du régime ségrégationniste. Après le massacre de Sharpeville en 1960, où 69 manifestants noirs Mandela se tournent vers la lutte armée en Umkhonto,
Wesizwe. En 1962, Mandela est arrêté et condamné à la prison à vie en 1964, lors du procès de Rinovia. Nelson Mandela. Né le 18 juillet 1918 dans le village de Mvezo en Afrique du Sud, et une figure emblématique de la lutte contre l'apartheid, un symbole mondial de la paix et de la réconciliation. Issu du clan Thembu de l'ethnie Xhosa, il est envoyé à l'école méthodiste de Ildon, puis à l'université de Fort Hare, où il commence à développer son engagement politique. En 1944, Mandela rejoint le Congrès national africain, ANC, et confond la Ligue des jeunes de l'ANC, prenant des actions désobéissantes civiles contre les lois injustes du régime ségrégationniste. Après le massacre de Sharpeville en 1960, où 69 manifestants noirs sont tués par la police, l'ANC est interdit et Mandela se tourne vers la lutte armée en fondant la branche militaire de l'ANC. Umkhonto Wesizwe. En 1962, Mandela est arrêté et condamné à la prison à vie. En 1964, lors du procès de Riviona, il passe 27 ans en prison, principalement à Robben Island. Devenant un symbole international de la résistance à l'oppression, pendant son emprisonnement, la pression internationale sur le gouvernement sud-africain augmente, poussant vers des réformes. Libéré le 11 février 1990, Mandela joue un rôle crucial dans les négociations qui mènent à la fin de l'apartheid. En 1993, il reçoit le prix Nobel de la paix avec le président sud-africain Frédéric Leclerc pour leurs efforts en faveur de la réconciliation. L'année suivante, Mandela devient le premier président noir de l'Afrique du Sud, élu lors des premières élections multiraciales du pays. Son mandat de 1994 à 1999 est marqué par des efforts pour construire une nation arc-en-ciel, promouvoir la réconciliation et mettre en place des politiques visant à redresser les inégalités socio-économiques héritées de l'apartheid. Il met également en place la Commission Vérité de la Réconciliation pour aider le pays à guérir des blessures du passé. Après sa présidence, Mandela continue à s'investir dans des causes humanitaires à travers sa fondation. Il se retire de la vie en public en 2004 et décède le 5 décembre 2013, laissant derrière lui un héritage durable de paix, de justice et de dignité humaine. Mandela reste une source d'inspiration pour les défenseurs des droits de l'homme à travers le monde.
Désolée pour ce petit problème technique et merci beaucoup Isaac pour ta chronique personnelle. Je vous remercie d'avoir nous avoir écoutés sur Globule Radio, sincèrement.
Merci tout le monde pour avoir écouté notre groupe.
Merci à tous les auditeurs de nous avoir écoutés et j'espère que ça vous a plu et à bientôt.
Merci à tous d'avoir pris votre temps pour nous écouter.
C'était Léo, Félix, Clément et Isaac. Et on vous laisse avec The Drama, composé de Alistair et Nina. Et vous allez écouter tout de suite Viva la Vida.